Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les pyramides égyptiennes ont toujours fasciné et l'on ne compte plus les œuvres de fiction, films ou livres d'aventure qui cherchent à en percer les mystères. Enjeu touristique de premier plan pour le pays, ces réalisations monumentales ont encore bien des secrets dont certains auraient été percés par une équipe internationale de scientifiques. C'est en tout cas ce qu'affirme Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission Scan Pyramide, qui vient de rendre son rapport au ministère égyptien des Antiquités. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Mehdi Tayoubi, bonjour.
Bonjour.
Co-directeur de la mission scientifique Scan Pyramide en Égypte. Vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère égyptien des Antiquités ainsi qu'avec la faculté des ingénieurs du Caire. Et vous avez mis au point une technique qui permet de déceler les anomalies que renferment les pyramides. Alors, quelle est précisément cette technique que vous avez élaborée ? Alors,
nous déployons depuis octobre 2015, c'est-à-dire date à laquelle cette mission a été lancée, toute une série de techniques que l'on dit non destructives et non invasives. L'objectif, c'est de réunir autour de cette mission des équipes scientifiques qui maîtrisent différentes technologies qui nous permettent, entre guillemets, de voir à travers la pierre sans toucher à la pyramide. Donc, ces techniques consistent en fait à utiliser soit de l'infrarouge, c'est-à-dire faire des mesures infrarouges sur les faces des pyramides pour détecter des anomalies thermiques. Une autre technique consiste à utiliser des détecteurs de muons, trois types de détecteurs de muons, pour voir aussi à travers la matière et identifier des différences de densité et des vides. Et la troisième technique que nous utilisons, qui nous sert énormément en simulation pour avancer en fait dans nos recherches, c'est tout ce qui concerne en fait à modéliser, faire de la photogrammétrie, l'ensemble en fait des pyramides de l' ancien empire.
Modéliser en 3D, c'est cela?
Absolument,
hein, modéliser. Pour avoir une idée de ce que c'est.
Alors, modéliser en 3D pour avoir le modèle 3D des pyramides le plus précis possible que l'on intègre ensuite dans nos simulateurs pour vérifier et confronter les résultats que l'on obtient dans le réel, que ce soit avec l'infrarouge ou avec les muons. Et bien entendu aussi dans une logique aussi de préservation du patrimoine, prendre l'empreinte numérique de ces monuments de l'ancien empire.
Justement parce que jusqu'à présent, on allait faire des recherches mais avec beaucoup de dégâts à la clé.
Alors pendant très longtemps, effectivement, l'archéologie au 19e, début du 20e siècle jusqu'à un certain temps, en fait, a consisté, quand on voulait savoir ce qui se trouvait quelque part, à ouvrir, à détruire et à rentrer dans les monuments. L'objectif avec ces techniques, c'est bien entendu de ne surtout pas toucher aux monuments et de détecter en avance, grâce à ces techniques qui sortent pour certaines tout juste des laboratoires de recherche fondamentale, par exemple en physique des particules, et bien d'observer ces monuments sans les dégrader.
L'année dernière, en 2015, vous aviez exploré une première pyramide, et là apparemment vous n'aviez rien trouvé. Cette fois vous avez démarré au mois de juin la pyramide de Khéops, et là vous avez fait des découvertes. Lesquelles ?
Alors absolument, nous avons commencé l'année dernière par examiner la pyramide rhomboïdale, car il fallait tout d'abord démontrer que la technique des muons pouvait marcher dans un monument aussi massif qu'une pyramide. Et le protocole scientifique était relativement simple. Il suffisait en fait de se mettre dans la pyramide rhomboïdale, dans ce qu'on appelle la chambre basse, observer tout ce qui se trouvait au-dessus de nous et être capable de détecter la chambre haute qui est connue. Donc on a démontré qu'on était capable de voir cette chambre haute et nous n'avons détecté aucune anomalie de structure dans cette pyramide rhomboïdale. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que dans la pyramide rhomboïdale, il n'existait pas de pièces de taille supérieure ou égale à celles que l'on connaissait. En revanche, dans Khéops, quand on a démarré en juin 2016 les mesures sur cette pyramide avec différentes technologies de muons, que ce soit les techniques de l'université de Nagoya au Japon ou les techniques du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en France, avec leur télescope à muons, nous avons eu la chance, j'ai envie de dire, de découvrir deux anomalies qui correspondent en fait à des cavités qui sont inconnues à ce jour.
Car jusqu'à présent, on savait qu'il y avait deux cavités, la cavité du roi, la cavité de la reine, dans Khéops, et c'est tout.
Alors dans la pyramide de Khéops, il y a plusieurs cavités. Il y a tout d'abord la chambre souterraine. Ensuite, on a à peu près au centre de cette pyramide une chambre que l'on appelle la chambre de la reine. Et au-dessus de cette chambre de la reine, une chambre relativement impressionnante qui pose beaucoup de questions, que l'on appelle la chambre du roi, dans laquelle on a ce sarcophage en granit et qui a un plafond plat qui est unique, j'ai envie de dire, dans l'histoire des pyramides, pour la première fois, en hauteur, avec toute cette masse de pierre, une chambre avec un plafond plat.
Mais ce que vous avez découvert, ce sont deux nouvelles cavités, c'est cela ?
Absolument. Nous avons détecté, grâce à notre muographie, deux nouvelles cavités. Une cavité qui part, en fait, de la face nord, là où se trouvent, en fait, ce qu'on appelle les chevrons. Quand les touristes arrivent en Égypte et qu'ils vont visiter le plateau de Gizeh, on arrive par la face nord de cette pyramide de Khéops et on voit très bien, ces chevrons. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit en fait d'une sorte d'entrée monumentale de la pyramide. Mais il faut savoir que quand la pyramide avait été terminée il y a 4500 ans, ces chevrons n'étaient pas apparents. Il faut imaginer la pyramide comme un objet parfait qui était très lisse avec du calcaire de Toura qui brillait au soleil et ses chevrons étaient noyés dans la masse. Et dans l'histoire des pyramides, pour la première fois, les Égyptiens, en construisant la pyramide de Khéops, utilisent la technique des chevrons. Les chevrons, en fait, étant ces V inversés qui permettent de protéger un vide. Donc on retrouve des chevrons dans la chambre de la reine, on retrouve des chevrons dans la chambre du roi, en au-dessus des chambres de décharge, pour protéger les pièces. Et donc, on s'est posé la question, mais pourquoi autant de chevrons sur cette face nord ? Sans doute pas pour protéger uniquement ce petit couloir qui est en dessous, que l'on appelle le couloir descendant, qui fait à peu près un mètre de section. Et on s'est dit, et en plus on a observé dans cette zone des anomalies thermiques. Donc là, les anomalies thermiques, les questions que posait cette structure intrigante sur la face nord, nous ont amené à poser nos détecteurs de muons en contrebas, dans le couloir descendant, et à détecter en fait une cavité qui se trouve probablement donc entre ce couloir descendant et les chevrons. Ça, c'est pour la première cavité qui a été détectée. La seconde cavité a été détectée grâce aux instruments du CEA, des télescopes que l'on a positionnés à l'extérieur de la pyramide, en visant une arête bien précise qui est l'arête nord-est, car on savait que sur cette arête, il y avait une petite cavité déjà connue. Donc on voulait savoir si nos télescopes étaient déjà capables de voir la cavité connue. Et c'est là que l'on a eu la surprise de découvrir, juste au-dessus de la cavité connue, une cavité de taille équivalente à la précédente.
Est-ce que l'on sait ce qu'il y a à l'intérieur de ces cavités nouvelles ?
Alors aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces cavités nouvelles et on utilise délibérément le mot cavité car on ne souhaite surtout pas parler de chambre ou de mystère. On est vraiment sur un protocole scientifique extrêmement rigoureux. Ce que l'on sait, c'est que la cavité est là. Quel était son objectif ? Quel était son but ? À quoi pouvait-elle servir ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Nous espérons que les égyptologues vont aussi émettre certaines hypothèses. Ce que l'on sait, quand on observe la muographie faite par l'université de Nagoya concernant l'anomalie de la face nord derrière les chevrons, c'est que l'on peut distinguer, on commence à distinguer quelque chose qui pourrait ressembler à une forme de couloir. Donc de là à imaginer qu'il s'agit d'un circuit nouveau que l'on aurait détecté dans la pyramide, pourquoi pas, mais il nous faut encore recueillir un certain nombre de données sur le terrain, et notamment ce qu'on appelle faire de la triangulation 3D, c'est-à-dire mettre des dispositifs à d'autres endroits, pour commencer à donner une forme plus précise à cette cavité, et pour pouvoir comprendre en fait à quelle altitude elle se trouve exactement. Donc la question aujourd'hui n'est plus de savoir si la cavité est là ou pas, la question est de savoir quelle forme exacte elle a et à quoi elle pouvait servir. Ça, c'est concernant, ça concerne la première cavité face nord. Concernant la deuxième, on sait par analogie avec la cavité connue sur l'arête nord-est qu'elle doit sans doute avoir une forme équivalente à celle que l'on connaît déjà, c'est-à-dire une sorte de petite grotte qui se trouve en fait sur cette arête nord-est. Nous avons détecté d'autres anomalies sur cette arête nord-est, mais nous n'avons confirmé pour l'instant que ces deux anomalies, car en physique des particules, quand on valide un événement, il faut qu'on obtienne en fait un taux de statistique que l'on appelle de sigma 5, c'est-à-dire l'équivalent de 99,4 × 9 derrière. Donc nous n'avons confirmé que deux anomalies, mais nous sommes en train d'étudier dans toutes les données que nous avons recueillies sur le terrain, d'autres anomalies qui sont intrigantes.
Alors on comprend bien l'intérêt scientifique que l'on peut avoir à ces recherches, mais quel peut être l'intérêt pour l'Égypte de poursuivre ces recherches à l'intérieur des pyramides ?
L'intérêt, bien entendu, est un intérêt scientifique. L'intérêt, c'est de faire progresser la connaissance. Ces pyramides restent un mystère depuis 4500 ans. La vue de coupe que l'on connaît aujourd'hui de la pyramide de Khéops n'a quasiment pas évolué depuis le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies permettent de faire avancer de manière relativement rapide la connaissance que l'on a sur ces monuments, mais surtout ouvrir la voie à d'autres types de collaborations archéologiques, d'autres types de découvertes pour le patrimoine égyptien, qui est aujourd'hui un des plus riches que l'on puisse avoir, que ce soit pour les Égyptiens et bien entendu pour l'ensemble de l'humanité. Donc s'attaquer, je veux dire, à ces icônes que sont les pyramides, c'est aussi préparer le futur de l'archéologie, essayer d'imaginer ce que peut être l'archéologie du 21e siècle, où finalement toutes les disciplines collaborent sur un même pied d'égalité. Aujourd'hui, politiquement, c'est quasiment un projet où on essaye de réinventer les modes de collaboration, où ces projets ne peuvent plus être les projets d'une seule personne, ce sont des projets qui doivent rassembler les archéologues, les égyptologues, les physiciens des particules, les spécialistes en 3D, et pour nous, enfin, symboliquement, ils préfigurent ce que peuvent être les relations dans l'archéologie dans le futur.
Merci Mehdi Taïoubi, je rappelle que vous êtes co-directeur de la mission scientifique Scan Pyramide, qui regroupe de multiples équipes de chercheurs du monde entier, dont le français CEA.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Mai Walid est une voix qui monte en Égypte et au Moyen-Orient. Accompagnée par le musicien libanais Zed Hamdan, la voici dans un morceau très électro-rock, Asafer Païd. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
On commente bien entendu les élections américaines. Alexandre, la presse arabe est très divisée sur la victoire de Donald Trump.
Oui, il y a d'abord ceux qui considèrent l'élection de Donald Trump comme une catastrophe. C'est notamment le cas de la presse palestinienne qui souligne que l'élection du milliardaire à la tête de l'exécutif américain va renforcer l'extrême droite israélienne. Ils craignent que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche ne renforce la politique de colonie de peuplement en territoire palestinien. Il y a ensuite ceux qui appréhendent l'arrivée au pouvoir de Trump. C'est le cas des médias saoudiens et qatariens qui soulignaient tout au long de la campagne électorale ses déclarations fracassantes sur l'islam et les musulmans. Le prince Al-Walid ibn Talal, mania des médias arabes, avait notamment qualifié Trump d'être un déshonneur pour l'Amérique. Mais le prince a visiblement mis du vin dans son eau puisqu'il a félicité Trump pour sa victoire via Twitter. Il y a enfin ceux qui se félicitent de l'élection de Trump comme la plupart des journaux égyptiens. Le grand journal officiel Al-Ahram parle d'opportunités favorables pour Trump et pour l'Égypte. Plusieurs éditorialistes soulignent le fait que Trump a rendu hommage au président égyptien Sisi qui avait profité de sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour recevoir le candidat républicain à la Maison-Blanche. Les journaux se félicitent aussi de l'hostilité de Trump à l'égard des frères musulmans, considérés comme une organisation terroriste en Égypte. Une confrérie décrite, tout comme la mouvance révolutionnaire égyptienne, comme étant les veuves de Hillary Clinton.
Michel, en Israël également, le sujet continue de faire la une des éditions du week-end.
Oui, à retenir plus particulièrement cette semaine, Eric, le quotidien Israel Hayom, le journal gratuit dont le propriétaire, le milliardaire américain Sheldon Adelson, est non seulement proche de Benjamin Netanyahu, mais aussi proche de Donald Trump. Et les résultats ne se font pas attendre. Un message que le président élu américain adresse aux Israéliens par l'intermédiaire du journal. La paix au Proche-Orient, affirme-t-il, ne sera obtenue que par la négociation entre les parties. Trump s'oppose à tout règlement imposé. Israël est un rayon de lumière et Donald Trump affirme encore qu'il aime et respecte Israël et ses habitants. Comme vous l'imaginez, les journaux sont remplis d'articles et de commentaires sur le résultat des élections américaines. Alors pour Yediot Aharonot, cela donne « Super Trump ». Un commentateur qualifie le successeur de Barack Obama de président pour les riches. Marie en manchette se pose une question. Où va l'Amérique? Sous le titre Voix Express, un commentateur estime que la période de grâce dont va jouir Trump sera la plus courte qu'ait jamais connue la Maison-Blanche. Un autre éditorialiste résume les réactions en Israël. La droite se réjouit et la gauche est en deuil. Haaretz parle du rêve américain de Netanyahou qui est en train de se réaliser. Et un autre journaliste du même quotidien pose une question. À qui le tour maintenant? Et sa réponse, Marine Le Pen.
Alors Michel, comme le craignent les Palestiniens, selon Alexandre, on l'a entendu il y a un instant, la droite israélienne se frotte les mains.
Selon les médias, en Israël, c'est parti. La construction dans les colonies reprend de plus belle. Le feu vert aurait été donné dans un premier temps dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est. Selon plusieurs articles, la droite espère que les 7 années maigres des mises en chantier dans les implantations israéliennes arrivent à leur fin et vont céder la place, comme au temps biblique, à des années grasses. Toujours selon ses sources, la droite israélienne espère maintenant que les arrêts de destruction pour les constructions palestiniennes, considérées elles comme illégales, seront désormais mis à exécution. Autre vœu pieux, le transfert de l'ambassade des États-Unis. Elle se trouve à Tel Aviv, comme les autres ambassades, mais Donald Trump a promis pendant sa campagne de la faire passer à Jérusalem et de reconnaître ainsi, de facto, le statut de capitale de la ville sainte.
Alexandre, le journal Al-Hayat braque les projecteurs sur les combattantes kurdes anti-État islamique.
Oui, un phénomène qui est étonnant dans un monde arabe très conservateur et qui est peu habitué à voir des femmes combattre en première ligne. Alors le reportage est consacré aux combattantes qui participent à l'offensive arabo-kurde des forces syriennes démocratiques qui mènent une offensive contre la capitale de Daesh, le nom arabe de l'État islamique, au Levant. Des combattantes motivées par le désir de venger les femmes enlevées et vendues comme esclaves par Daesh, souligne Al-Haya.
Et puis, l'intelligence artificielle appelée en renfort de la lutte contre l'extrémisme islamique sur Internet, c'est dans le journal Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, selon Hani Farid, promoteur du projet de confrontation de l'extrémisme, il s'agit d'une technologie nouvelle pouvant identifier des textes, des images ou des vidéos extrémistes émanant de Daesh, Al-Qaïda, Nusra, etc. et de signaler les sites ou les pages qui les diffusent aux fournisseurs de services Internet pour les bloquer. Selon Farid, le programme a été testé avec succès sur Twitter, Facebook et YouTube et doit entrer en fonction très prochainement.
Michel, le gouvernement israélien exige que les compagnies théâtrales subventionnées fassent des tournées en Cisjordanie.
Et c'est une première, Eric. Le théâtre national israélien, le fameux Habima, qui a vu le jour à Moscou en 1918, s'est produit hier soir dans une colonie de peuplement à Kiryat Arba, à la lisière de la ville de Hébron. Au programme, une pièce du prix Nobel israélien Shai Agnon. Son histoire simple a rempli la salle du centre communautaire de la colonie. La ministre de la Culture, Miri Regev, s'est réjouie du fait que les acteurs n'aient pas cédé à l'intimidation, selon ses propos rapportés par la presse. Et d'après Haaretz, seul un acteur a refusé de se produire à Kiryat Arba. Les colons ont eux aussi droit à la culture, affirme la ministre Miri Regev.
Et pas de photos cette semaine, Michel Paul?
Non, cette semaine, deux caricatures. Facile, Donald Trump en cow-boy, et plus sophistiqué, le président élu assis sur un banc, la mine réjouie, et Bibi Netanyahou carrément étalé, sa tête se reposant sur les jambes du nouveau patron de la Maison-Blanche.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.